Bonjour, c'est Lionel Pierrot pour le Forum des Jeunes sur Fadjet. Une demi-heure pour donner la parole à des jeunes et aujourd'hui des lycéens qui ont réfléchi, enquêté, travaillé donc sur les femmes en lutte et en mouvement. Qui sont ces femmes? Quelles sont leurs luttes? Quand ont débuté leurs luttes féministes? C'est l'objet de l'émission d'aujourd'hui. Un tour de table pour commencer cette émission. Bonjour à tous.
Bonjour, je m'appelle Léo et j'habite à Delme.
Oui, ton voisin.
Bonjour, je m'appelle Valentin Collinet et j'habite à Liverdun.
Oui, ton voisin.
Bonjour, je m'appelle Dorian et j'habite à Custine.
Bonjour, je m'appelle Elliot et j'habite à Crévic.
Très bien, donc quatre élèves pour le moment autour de la table. Vous laisserez la place à d'autres dans quelques minutes. C'est Léo qui va commencer pour présenter ce projet. Alors, quel est-il ce projet?
Alors aujourd'hui, la classe de seconde du lycée Loritz va vous présenter les différents travaux effectués tout au long de l'année sur le thème des femmes en lutte et en mouvement. Pour cela, des groupes de 2 personnes ont été faits en classe et chaque groupe avait une femme à étudier pour pouvoir aboutir à un exposé en classe. Le but, c'était de faire connaître aux élèves des femmes illustres comme Simone Veil qui a créé la loi IVG et qui ont fait avancer le droit des femmes, ou Olympe de Gouges qui s'est battue toute sa vie contre les inégalités et plus particulièrement contre les inégalités hommes-femmes. Toutes les femmes que nous avons étudiées ont su faire reculer les préjugés, comme Marie Curie, qui a cassé le cliché sur le fait que les femmes ne peuvent pas faire de grandes études et réussir dans leur vie. Par exemple, je prends le lycée Loritz, c'est encore le cas aujourd'hui, il y a seulement 24% de filles dans le lycée, donc ça fait 380 filles sur 2000 élèves, ce qui est pratiquement rien.
Oui, c'est un lycée technique, scientifique,
c'est bien ça. Et vu que les filles sont plus souvent assimilées à des études littéraires, donc il y a forcément moins de filles.
Oui.
Donc notre but va être de vous faire changer de regard sur les inégalités qui sont encore très présentes aujourd'hui.
Très bien, une présentation complète. Donc vous avez travaillé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même.
Oui, à peu près 6 mois.
Et donc un travail collaboratif puisque chacun a travaillé une partie.
Tout à fait, oui.
Et puis après, vous avez assemblé tout ça.
C'est ça. Donc, on a fait un exposé en classe, chacun sur son thème. Et donc, on a peaufiné la chose pour pouvoir le présenter à la radio.
Très bien. Eh bien, je vous propose une première pause musicale. Vous avez choisi la première pause musicale. Cette chanson qu'on va écouter, c'est quasiment un hymne au mouvement féministe. Il s'agit d'Aretha Franklin, Respect.
Oh!
Aretha Franklin respecte donc, comme je le disais tout à l'heure, quasiment un hymne pour les mouvements féministes. C'était en 1967. 50 ans plus tard, les jeunes sont-ils concernés par la lutte des femmes, par les femmes en mouvement? Eh bien, dans le cadre de ce projet scolaire, Ogun, Anis, Maxime et Noé ont pris le micro de Fadjet et sont allés se promener dans les couloirs pour ce petit micro-trottoir.
Bonjour, connais-tu des noms de femmes qui se sont battues pour l'égalité homme-femme?
Il y a Simone de Beauvoir. Non, j'ai plus les noms qui me viennent en tête là, mais voilà.
Merci.
Est-ce que vous connaissez des femmes qui se sont battues pour l'égalité homme-femme?
Du tout. Du tout. Officiellement, non.
Est-ce que tu connais des femmes qui se sont battues pour l'égalité homme-femme aujourd'hui ou dans le passé?
Non.
Pouvez-vous me citer des noms de femmes par rapport aux égalités hommes-femmes?
Olympe de Gouges, Benoît de Groulx. J'en connais plus que ça, mais ça ne me revient pas.
Merci.
Merci.
Connais-tu des femmes qui se sont battues pour l'égalité hommes-femmes?
Simone Veil.
C'est pour vous demander, est-ce que vous connaissez des femmes qui ont lutté pour l'égalité homme-femme?
Oui, je sais pas, je dirais la première qui me vient à l'esprit, même si c'est peut-être pas tout fait le thème, Simone Veil peut-être. Si, il y a aussi, alors j'ai pas de nom, mais il y a aussi les Femmes qui actuellement travaillent beaucoup pour ça.
Connais-tu des femmes ou des mouvements de femmes qui se battent pour l'égalité hommes et femmes?
Oui, bah bien sûr, il y a les Femmes. Et on a aussi entendu parler d'Emma Watson, qui a fait une pub un peu osée où elle avait un... On voyait ses seins et elle a dit qu'au final, le féminisme, c'était surtout une liberté et qu'elle avait très bien le droit de montrer ses seins si elle en avait envie.
Connaissez-vous des femmes qui se sont battues ou qui se battent encore actuellement pour l'égalité homme-femme?
Super question. Oui. En disant français, on a Simone de Beauvoir notamment. Puis encore actuellement, il y a Malala, c'est un prix Nobel d'il y a peut-être 2 ans déjà.
Et vous?
Alors, je connais pas de personnes de femmes qui ont vraiment défendu l'égalité homme-femme, mais elles ont contribué. Par exemple, l'exemple le plus connu, je pense, c'est Jeanne d'Arc. Enfin, le fait qu'une femme soit au combat, ça montre que l'égalité peut exister, même si elle s'est pas battue pour ça.
Est-ce que vous connaissez des femmes qui ont participé au mouvement pour l'égalité homme-femme?
Alors non, comme ça, non. Je dirais que non, j'en connais pas.
Est-ce que vous connaissez des femmes qui sont battues pour l'égalité homme-femme?
Ah non.
Non.
Non plus.
Merci.
Connais-tu des femmes de l'époque ou de maintenant qui se sont battues pour l'égalité homme-femme?
Non, pour l'instant, j'en ai pas.
Des réactions spontanées dans les couloirs du lycée Loritz par rapport à ces questions sur les femmes en mouvement, les femmes en lutte. Beaucoup d'hésitations, on l'a entendu, quelques noms, quelques mouvements féministes qui ont été cités. Elliot, toi tu as travaillé sur une femme célèbre, quelle est-elle?
Oui, c'est Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, c'est une femme de lettres, une femme politique et polémiste française. Son vrai nom, c'est Marie Gouze. Elle est née le 7 mai 1748 et est décédée le 3 novembre 1793.
Oui, elle est décédée comment?
Elle a été guillotinée à cause de ses idées qu'elle soutenait franchement, oui. Sous la terreur. Elle fut mariée à 16 ans et elle est devenue veuve à 17 ans.
Mmh. Quels étaient ses principaux combats au moment de la Révolution?
Elle se bat surtout pour le droit de vote et le des femmes et des Noirs.
Oui.
Elle est autrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Elle se bat pour l'abolition de l'esclavage et des Noirs.
Mmh. Et puis, tu as travaillé sur cette femme célèbre. Comment a-t-elle exprimé ses opinions? De quelle façon elle s'y prenait?
Bah, elle s'est surtout exprimée sur ses opinions par le théâtre. Elle s'est exprimée à l'Assemblée nationale, elle a fait des discours dans la rue, elle a écrit des livres. Elle fréquente aussi beaucoup de clubs politiques pour faire passer ses idées.
Mmh. Quelque chose à ajouter ou alors c'est la parole à Dorian pour les suffragettes?
Elle sera pas vraiment très comprise, oui, à cette époque parce que les hommes et les femmes faisaient toujours comme ça et du coup ils voyaient pas pourquoi changer ceci.
Oui, les femmes étaient tenues à se contenter de la maternité.
Voilà, exactement.
C'était ça à l'époque de la Révolution française.
Oui.
Et Dorian, toi tu as travaillé sur les suffragettes, de quoi s'agit-il ?
Eh ben, les suffragettes sont des féministes du 19e siècle qui ont permis au Royaume-Uni de passer au suffrage universel.
Mmh. Donc dès le début du 19e siècle, hein, dès 1903.
Donc elles sont regroupées en plusieurs associations, comme la WSPO, créée en 1903,
oui.
Dirigée par Christabel et Emily Pankhurst.
Donc là aussi, quelles étaient leurs revendications ? Dans quelles conditions sociales vivaient les femmes à cette époque en Angleterre ?
Bah, elles voulaient être égales aux hommes, et, du point de vue de la société. Parce que elles n'avaient pas beaucoup de droits. D'ailleurs, elles n'avaient pas le droit de vote. Elles étaient, elles avaient pas plus de droits qu'un criminel, un malade mental ou un enfant.
Mm-hmm.
Et elles étaient.
Oui, tu as étudié peut-être d'autres mouvements féministes en Angleterre à cette même époque.
Oui, comme la NUWSS, créée en 1897.
Donc un petit peu antérieure. Oui. Ouais.
Et, dirigée par Millicent Garrett Fawcett.
Très bien. Ouais. Et là aussi, des mouvements, des protestations, avec quel mode d'action ?
Des modes d'action différentes en fonction des associations.
Oui.
Par exemple, il y en avait qui agissaient de manière pacifiste, avec des jeûnes, des boycotts et des manifestations.
Oui.
Et d'autres de manière agressive, avec des destructions de biens publics.
Ah oui, donc là, même au 19e siècle, les femmes n'avaient pas peur d'utiliser la violence. Mmh. Mmh. Tu as d'autres exemples précis d'actions violentes utilisées pour faire entendre leur voix ?
Oui, exactement. Une fois, ils ont tous caché un marteau dans leur jupe.
Oui.
Ils se sont tous postés à des endroits où il y avait des vitres et ils l'ont sorti et l'ont cassé.
D'accord, des bris de vitres dans la rue. Hein. Alors j'imagine que ces actions violentes étaient sans doute pas tolérées. Ont-elles été réprimandées ?
Oui, elles ont été arrêtées, mises en prison. Et, pour continuer à se faire entendre en prison, ils ont arrêté de manger. Et du coup, il y a même eu une polémique parce qu'elles ont été forcées à être mangées et du coup elles ont été blessées.
D'accord, ouais, donc ces grèves de la faim qui ont mal tourné. Et alors toutes ces actions dès le début du 19e siècle, est-ce qu'elles ont été vaines ? Est-ce qu'elles ont permis d'obtenir des avancées ?
Oui, en 1918, elles ont obtenu un droit, qui était le droit de vote pour les femmes de plus de 30 ans.
Oui.
Et en...
Donc il y avait encore une petite inégalité par rapport aux hommes, mais il y avait une avancée certaine.
Exactement. Mmh. Et en 1928, une seconde loi qui a été votée et qui exige une parfaite légalisation des hommes et des femmes de plus de 21 ans.
D'accord.
Donc ouais. Déjà là, une très grande avancée.
Avec le droit de vote en Angleterre, donc, dès 1928. Mmh. On peut rappeler qu'en France, le droit de vote pour les femmes a été obtenu en 1944. Mmh. Très bien. Valentin, toi tu as travaillé sur une autre femme, célèbre, contemporaine d'ailleurs.
Oui, il s'agit de Aung San Suu Kyi. C'est une femme politique née en 1945. Elle est issue d'un père général de l'armée birmane.
Oui, donc là on est effectivement en Birmanie.
Exactement, et il a été assassiné en 1947. Et il faut savoir qu'à cette époque dans le pays c'était c'était une dictature. Et donc c'était Aung San Suu Kyi voulait changer cela. Donc, à partir de 1988, elle crée la Ligue nationale pour la démocratie et puisera dans la non-violence prônée par Gandhi. Donc, elle essaye de reprendre les formes que Gandhi avait faites.
Ouais, donc, elle fonde son parti politique, en quelque sorte.
Exactement.
Mmh. Alors, ce parti politique, qu'est-ce qui lui permet de faire entendre sa voix ?
Totalement, parce qu'en 1990, elle remporte 82% des sièges.
Ouais, donc, c'est une bonne nouvelle, alors.
Bah, c'est-à-dire que, normalement, le pays devait redevenir démocratique, mais la dictature a fait qu'elle a été enfermée en résidence surveillée, donc... Elle ne pouvait plus sortir de chez elle, mais grâce à ses combats, elle a réussi à avoir un prix Nobel de la paix.
Oui, en 1991. Et puis, elle est arrivée au pouvoir indirectement, puisqu'elle n'a pas été présidente, ministre des Affaires étrangères de son pays.
Voilà, grâce à ses combats, maintenant, elle a été ministre.
Oui.
Puis,
Bah, on peut dire que c'est grâce à elle que la démocratie s'est installée dans son pays.
Un bel exemple donc de pugnacité et de réussite.
Et de réussite d'une femme qui... Ça montre qu'il n'y a pas que les hommes qui peuvent combattre pour leur pays.
Je vous propose une nouvelle pause musicale avec un rappeur, Medine. Son titre, c'est « Combat de femmes ».
270 jours dans le repos de la matrice. Une destinée insufflée dans l'éternelle institutrice. Voyager vers la vie dans tes entrailles. Insouciant du nouveau monde quand elle te pose sur les rails. Cuillère d'argent et nourriture dans la bouche. La peau du dos entre les gros lionceaux n'est plus farouche. Préserve du vinaigre et le remplace par le miel. Avant d'être social, ma couverture est maternelle. Adolescent gâté mais désobéissant. Qui collectionne les mensonges, comportements avilissants. Je regrette tellement, j'espère te rembourser un jour. Quitte à sacrifier ma vie, faire mes excuses au grand jour. Mère couveuse, mère poule, mère solidaire. Mère à l'écoute, mère porteuse et mère autoritaire. Aucun adjectif n'est assez baraqué. Aussi vrai que le paradis, maman se trouve à tes pieds. Parce que les mères enfantent les filles et les filles deviennent femmes. Deviennent des sœurs, des demoiselles puis des dames. Au patron féminin et ce depuis les premiers âges. Et quel que soit leur nom, elles sont synonymes de courage. Le visage qui réconforte nos carcasses. Et loin du tracas, soulage des sarcasmes. Qui au moindre problème se jette dans l'arène. Combat de lionne, combat de princesse et de reine. Il est plus facile qu'un homme de faire perdre l'honneur d'une femme. Un seul geste de travers et le monde entier la condamne. Petite sœur qui à l'école montre l'exemple. Mais porte sur son dos les préjugés de son ensemble. Un truc qui daterait depuis la première femme. Pour avoir encouragé à l'interdit l'homme et son âme. N'écoute pas cette erreur, petite sœur. Tu vaux bien plus que beaucoup d'hommes à la force de ton cœur. Évite les mauvais délires, les mauvais gens. Évite la mauvaise compagnie qui procure le mauvais sang. Emprunte le bon chemin, celui qui mène au bien. C'est là mes seuls conseils pour te sortir du chagrin. L'encouragement, le minimum que l'on puisse faire. Avec ton voile et ton droit de vote, il va falloir s'y faire. Et pour preuve que le malaise est sur ton nom. Seulement 16 mesures déjà à court d'inspiration. Lorsque les mères enfantent les filles et les filles deviennent femmes. Deviennent des sœurs, des demoiselles puis des dames. Au patron féminin et ce depuis les premiers âges. Et quel que soit leur nom, elles sont synonymes de courage. Le visage qui réconforte nos carcasses. Et loin du tracas, soulage des sarcasmes. Qui au moindre problème se jette dans l'arène. Combat de lionne, combat de princesse et de reine. Un seul vêtement épouse la forme de nos corps. Les bâtiments pour seul décor donnent des orphelins du cœur. La moitié pleine qui remplit la moitié vide. Qui nous secoue quand on a la tête dans le vide. On dit souvent qu'on a la femme que l'on mérite. Moi je crois bien l'avoir compris avant le jour de la mairie. Marier sa culture à une autre avant le gong. Les minarets de Médine dans le fleuve du Mekong. La tour Eiffel dans le lac rose vers Dakar. Les dunes du Sahara sur la place du Mont Gaillard. Le mélange est explosif lorsqu'il donne le fruit de nos entrailles, une petite fille, petit bonhomme. Préserve-moi, je préserverai ton nom. Sanctuaire de la vie et de la procréation. Et va savoir pourquoi tes sourires m'inspirent. La première lettre de mon nom comme le mot que je voudrais dire. Lorsque les mères enfantent les filles et les filles deviennent femmes. Deviennent des sœurs, des demoiselles puis des dames. Au patron féminin et ce depuis les premiers âges. Et quel que soit leur nom, elles sont synonymes de courage. Le visage qui réconforte nos carcasses. Et loin du tracas, soulage des sarcasmes. Qui au moindre problème se jette dans l'arène. Combat de lionne, combat de princesse et de reine.
Le rappeur Medine qui traite du combat des femmes. Le combat des femmes peut-il être une affaire d'hommes? En tout cas aujourd'hui dans le forum des jeunes sur Fadjet, les 33 garçons de la classe 504 du lycée Loritz ont travaillé sur les femmes en lutte. Ils se sont répartis les rôles et certains ont travaillé sur les femmes qui s'imposent dans des métiers traditionnellement réservés aux hommes. On va écouter Pierre, Antoine, Loïs, Arthur, Hugo et Titoine qui nous présentent 3 d'entre elles.
Qui était Marie Curie?
Donc Marie Curie était une Polonaise née en 1867 et morte en 1934. C'était une physicienne chimiste et elle est venue en France pour ses études supérieures car les femmes n'avaient pas le droit d'y accéder en Pologne.
Pour quel poste sera-t-elle la première femme en France et quelle distinction recevra-t-elle pour ses travaux de recherche?
Donc elle sera la première titulaire d'une chaire à la Sorbonne, puis la première femme à recevoir un prix Nobel.
Quels échecs va-t-elle subir en France?
Donc l'Académie des sciences va refuser son adhésion car les femmes étaient interdites, mais cependant elle va contribuer à la création du CNRS qui va par la suite devenir plus prestigieux que l'Académie des sciences.
Pourquoi peut-on dire que Marie Curie est un exemple de femme qui a dépassé les préjugés de son temps ?
Tout d'abord, elle est indépendante de son mari. Elle mène de front sa vie de famille, puis sa vie professionnelle. Et elle a vraiment une carrière professionnelle et exceptionnelle, car c'était une des seules femmes dans le domaine de la chimie.
Par quelles actions Marie Curie rejoindra le combat des féministes pour le droit de vote des femmes ?
Donc, elle va signer la libération des suffragettes, puis elle va s'engager dans la Croix-Rouge pendant la Première Guerre mondiale, et enfin elle va ouvrir son laboratoire aux jeunes étudiantes qui voudront approfondir leurs recherches scientifiques.
Qui était Simone de Beauvoir ?
Simone de Beauvoir était une femme de combat. Son combat était de libérer les femmes et ses préjugés tels que la femme n'est pas un objet érotique. C'était une femme forte qui a réussi à faire changer l'image de la femme dans la tête de tout le monde.
Quel est le métier de Simone de Beauvoir ?
Donc, au début de sa carrière, Simone de Beauvoir était enseignante, mais elle fut licenciée à cause de ses relations trop proches avec les élèves. Ensuite, elle devint écrivaine philosophe. Elle a écrit un livre, Les Mandarins, qui reçut le prix Goncourt en 1954.
Quelle est la cause défendue par Simone de Beauvoir ?
Elle défend la femme, l'avortement et ses droits. Elle ne veut pas être soumise ou inférieure aux hommes. Elle veut être jugée également entre hommes et femmes.
Comment fait-elle passer ses idées ?
Donc elle fait passer ses idées à travers des romans, un manifeste ou encore en écrivant un scandale tel que celui du deuxième sexe ou enfin par la publication d'articles.
Quel était son mode de vie et pourquoi vivait-elle ainsi ?
Donc Simone n'était pas mariée mais elle entretenait une relation avec Jean-Paul Sartre où ils se disaient absolument tout tout en étant indépendants l'un de l'autre. C'est une relation rare et mal vue à l'époque car ils n'étaient pas mariés.
Pourquoi son livre « Le deuxième sexe » a-t-il fait scandale ?
Donc lors de sa parution en 1949, Simone de Beauvoir choque les Français en défendant l'idée que les hommes et les femmes doivent être jugés également. Elle résume sa pensée avec la phrase « On ne naît pas femme, on le devient ».
Mis à part son mode de vie et ses livres, s'est-elle engagée par d'autres moyens au cours de sa vie ?
Donc elle s'est engagée en rédigeant le manifeste des 343 salopes. Donc dans ce manifeste, 343 femmes connues ont déclaré avoir avorté, donc dans le but de pousser la légalisation de l'avortement. Mais elle s'est aussi engagée lors de sa présence pendant les manifestations, lors de rencontres avec des personnalités communistes ou indépendantistes.
Que veut dire le sigle IVG ?
Le sigle IVG signifie interruption volontaire de grossesse.
Au sujet de la loi sur l'IVG, dite loi Veil, peux-tu rappeler en quelle année elle a été votée et qui était le président de la République à cette époque ?
La loi a été votée en 1975 par l'Assemblée nationale sous Valéry Giscard d'Estaing.
Et dans quel contexte social cette loi a-t-elle été votée ?
Cette loi a été votée dans un contexte social où il y avait énormément de femmes qui mouraient suite à des avortements qui étaient pratiqués illégalement, puisqu'à l'époque l'avortement était considéré comme illégal en France.
Et pourquoi la contraception ne suffit pas pour contrôler les naissances ?
La contraception ne suffit plus pour contrôler les naissances, puisque les mineurs, pour acheter des pilules, doivent avoir une autorisation parentale, mais aussi la pilule n'était plus remboursée par la Sécurité sociale, ce qui avait un certain coût, et qui donc n'était pas accessible à tout le monde.
Mais quelle est la situation des femmes au sujet de l'avortement avant le vote de cette loi ?
Avant le vote de cette loi, l'avortement est considéré comme illégal. Il est donc pratiqué par d'autres femmes, appelées les faiseuses d'anges, qui vont pratiquer ça chez les femmes, donc à domicile, avec des outils qui n'étaient pas stériles, ce qui pouvait donc rendre les femmes stériles, les tuer ou bien leur donner des maladies.
Et quel est l'argument majeur de Simone Veil pour faire voter cette loi ?
Son argument majeur était que la première loi qui interdisait l'avortement en France était très peu respectée et qu'il fallait donc en voter une nouvelle qui permettrait d'autoriser l'avortement en France pour que ça corresponde à la nouvelle société et que surtout pour que ce soit pour le bien des femmes.
Vous écoutez Fadjet, le forum des jeunes, et nous venons d'entendre un reportage sur les femmes qui s'imposent dans des métiers traditionnellement réservés aux hommes. On a entendu donc une présentation sur Marie Curie, Simone de Beauvoir et Simone Veil. Alors aujourd'hui, quels sont les modes d'action des femmes en lutte ? Je vais poser la question à Samy. Toi, tu as travaillé sur un mouvement qu'on connaît bien. Quel est-il ?
C'est les Femen, qui est un mouvement qui est créé en 2008 en Ukraine,
oui.
Au moment où le chômage était au plus haut et pour les femmes, il n'y avait que deux perspectives d'avenir, donc la prostitution ou se marier obligatoirement. Elle était poussée par les parents, car à l'époque, c'était une habitude.
Très bien. Quelles sont leurs revendications, c'est Jules ? qui a préparé ce travail ?
Alors, leurs revendications, c'est elles combattent pour les droits des femmes, mais aussi elles se battent contre les préjugés, donc comme la prostitution qu'on vient de parler juste avant.
Oui, alors Samy, tu as dit que le mouvement était né en Ukraine. Est-ce que le mouvement est resté en Ukraine ?
Non, il s'est propagé, il s'est devenu un mouvement mondial. Donc ici, on les connaît particulièrement bien, et ça s'est propagé aussi en Tunisie, en Espagne. Enfin, voilà, c'est un mouvement mondial maintenant.
Ouais. Jules, est-ce que tu peux décrire quelques-unes de leurs actions ? Est-ce que ces actions sont tolérées par les autorités ?
Eh bien, par exemple, elles vont dans la rue ou dans des endroits publics où beaucoup de gens viennent, et elles se mettent seins nus, voire totalement nus, avec des pancartes ou même des peintures sur elles. Et elles protestent, elles vont même à crier. Et en fait, elles, ce qu'elles veulent, c'est choquer les gens et les médias pour qu'on parle le plus d'elles. Les actions, elles sont pas forcément tolérées. Enfin, ça dépend des pays, en fait. Les sanctions sont plus ou moins sévères. Donc elles peuvent se faire frapper, insulter ou même enfermer.
Oui, arrêter. Et tout à l'heure, on a parlé des suffragettes, un mouvement né au début du XXe siècle. Est-ce qu'on peut comparer les suffragettes au début du XXe siècle, en 1903, avec les FMM aujourd'hui ?
Oui, donc les suffragettes et les FMM, ils ont des mêmes idées. Seul le mode d'action diffère. Les FMM, elles, veulent choquer visuellement. Et les suffragettes, elles, font de la dégradation matérielle. Donc c'est se faire connaître en force.
Mmh. Mais en tout cas, le message qu'elles veulent faire passer elles-mêmes, le combat pour une égalité entre les hommes et les femmes.
Oui.
C'est en tout cas sur ce thème que vous avez travaillé en classe depuis plusieurs semaines. Il est déjà l'heure de faire la conclusion. Théo, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Qu'est-ce qu'il reste à faire ?
Alors, il reste beaucoup de choses à faire. Je vais commencer ma conclusion. En vous donnant quelques chiffres au niveau mondial,
oui,
par pays.
Pour planter le décor.
Voilà, un petit peu. Donc, dans le monde arabe, il faut savoir qu'il y a quand même 85% des filles qui vont à l'école primaire. Mais donc, ça pourrait être quelque chose de positif. Mais il faut savoir aussi que si elles vont à l'école, c'est pour majoritairement apprendre que, dès le début, l'homme est supérieur à elle.
Oui.
Après, il y a aussi en Afrique subsaharienne, où un tiers de femmes n'est jamais allée à l'école,
oui,
donc ce qui représente un nombre assez conséquent, et où la moitié des collégiennes de Zimbabwéennes interrogées avouent avoir été agressées sexuellement sur le chemin de l'école.
Mmh.
Mais il y a quand même quelque chose de positif, si je puis dire, en Afrique.
Un message d'espoir.
C'est que le gouvernement a décidé de créer 54 000 salles de classe et a décidé de recruter 18 000 enseignants.
Donc il y a une prise de conscience.
Ce qui est quand même déjà une prise de conscience. Après, il y a...
Dans les chiffres accablants, t'en as d'autres.
Il y a l'Inde et la Chine, où il faut savoir que près de la moitié des filles sont mariées avant 18 ans, alors que la loi l'interdit. Et il y a une grande différence entre le Nord et le Sud. De le Nord, il n'y a que 20% de filles qui savent décrypter un texte.
Oui.
Et dans le Sud, il y a 90% de femmes qui savent lire un texte. Donc cette différence peut s'expliquer que l'égalité homme-femme n'est pas vue de la même manière. Donc ça peut être expliqué comme ça. Maintenant, je vais prendre le cas d'une fille en particulier qui se prénomme Malala.
Oui.
Donc c'est une fille qui habite au Pakistan. Donc elle était une étudiante au Pakistan, elle y vivait et elle a osé s'opposer aux talibans qui s'étaient installés dans ce pays-là et qui ont interdit l'école aux filles.
Oui.
Donc elle a continué à y aller, elle a continué à apprendre et elle a commencé à avoir des problèmes. Donc elle a d'abord été agressée verbalement,
oui,
puis ça a été de plus en plus violent jusqu'à ce qu'elle soit agressée physiquement. Et ça s'est fini un jour où elle a vraiment, c'est vraiment cet instant-là où elle était mondialement connue, c'est quand elle s'est pris une balle dans l'orbite gauche.
Oui, oui.
Donc elle a été à ce moment-là mondialement connue, elle a été miraculeusement sauvée, elle a été opérée, et depuis elle va bien et elle fait des meetings, elle a même rencontré l'ancien président des États-Unis Barack Obama pour parler de l'égalité des hommes-femmes, et maintenant elle est mondialement connue.
Elle est prix Nobel de la paix.
Mmh.
Bien.
Et je peux conclure en disant pourquoi la scolarisation des filles est-elle primordiale ? Elle est primordiale parce que ça leur permettrait enfin, à juste titre, d'accéder à des postes à haute responsabilité. Donc ça faciliterait logiquement leur insertion professionnelle. et donc elle serait plus libre. Et des chercheurs ont fait des tests, enfin ils ont imaginé que si les filles avaient autant de droits et pouvaient accéder aussi facilement aux postes comme gouvernement, chercheurs, etc., si elles pouvaient accéder aussi librement que les hommes, il y aurait plus de 100 millions de personnes dans le monde qui sortiraient de la famine, parce que la diversité homme-femme pourrait créer plus de solutions.
Très bien, merci Théo. Un petit mot pour conclure, est-ce que ce projet scolaire vous a changé? Est-ce que vous avez une vision autre maintenant?
Alors pour moi, avant qu'on fasse ce projet, j'avais plutôt tendance à minimiser les inégalités hommes-femmes. On nous en parlait à la télé, j'étais plutôt tendance à dire il y a des inégalités certes, mais bon. Et plus on s'est renseigné sur les inégalités, et plus on se rendait compte de la profonde inégalité dans certains pays, en Pakistan, en Libye, même en France, quelques petites inégalités qui ne sont pas aussi franches que dans d'autres pays, mais qui sont quand même bien présentes.
Oui, on peut rappeler 27% de femmes à l'Assemblée nationale et 25% de femmes au Sénat, par exemple. Je vais te donner la parole à Jules pour un petit mot de conclusion par rapport à ce que tu as apporté ce projet.
Oui, bah moi, comme Théo, je me rendais pas forcément compte de la situation, mais avec le travail que nous avons fait depuis plusieurs mois, ça nous a vraiment montré la situation de la femme dans le monde, que c'est assez quand même critique encore maintenant,
oui.
Et que par exemple à la télé, on parle plus politique ou TV, sport, alors qu'on pourrait parler plus des femmes.
Très bien, Samy.
Oui, donc ça nous a ouvert les yeux sur la situation des femmes et le parcours qu'elles ont fait pour acquérir des droits et le chemin qui reste aussi à parcourir puisque le chemin est encore long.
Comme on l'a vu. Et enfin,
moi, je me suis rendu compte que ce sont les femmes qui se sont battues tout au long de l'histoire et cela ne s'est pas fait tout seul.
Très bien, je voulais vous féliciter tous les quatre autour de la table mais aussi tous vos camarades qui ont participé à ce projet. Je voulais aussi remercier vivement vos professeurs Jocelyne Clément, Karine Oserman, pardon, et Nicole Fontanès qui ont encadré ce travail et préparé cette émission. C'était le Forum des Jeunes sur Fadjet. Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Au revoir.